France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Il y a quelques temps, Léopold Tobisch, journaliste web à France Musique, répertoriait les 10 décès les plus macabres des compositeurs classiques dans un article publié sur notre site internet. Parmi eux, Charles Valentin Alcan, écrasé par un porte-parapluie particulièrement lourd, ou Guillaume Lequeux, mort d'une fièvre typhoïde après avoir dégusté un sorbet. Alors que dire d'Henri Purcell ? On raconte qu'il aurait attrapé la mort après avoir été enfermé dehors par sa femme qui voulait le punir d'être sorti s'enivré à la taverne, ou enfin d'Alexandre Borodine, grand fêtard, lui aussi, mort d'une crise cardiaque en dansant lors d'un bal organisé par l'Académie médicale chirurgicale de Saint-Pétersbourg. Et malgré le fait qu'il était entouré de médecins et de chirurgiens, la mort, toujours la mort, comme dirait Carmen. Et bonjour Alex Vizorek.
Mais bonjour Saskia Deville.
Allez-vous nous trahir ou nous aimer ?
Oh, mais vous aimez, vous le savez, depuis de nombreuses années.
Mais on l'espère, on est ravis de vous accueillir sur France Musique avec ce premier extrait. Ah, moi je suis ravie que vous choisissiez cet extrait-là de Carmen de Georges Bizet, ce trio des cartes. On écoute ici, eh bien, Frasquita et Mercedes, les deux compagnes de Carmen, Yvonne Kenny, Alicia Naffé à l'interprétation, l'Orchestre Symphonique de Londres, Claudio Abbado à la direction. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, j'ai commenté un Carmen pour l'Orchestre National de Lille, c'est-à-dire que Alexandre Bloch avait enlevé toutes les parties où les chanteurs devaient se parler. Et c'est moi qui venais raconter, faire avancer l'histoire sur les bases de la nouvelle de Mérimée. Le Carmen de Mérimée. Et je pouvais y mettre des blagues parce que ça reste quand même mon métier.
C'est quoi la meilleure blague sur Carmen?
Je crois qu'au début, alors outre quelques blagues sur la capillarité d'Alexandre Bloch qui font toujours rire sur l'île et les environs, j'avais fait quelques blagues sur le fait que je n'allais pas donner la fin mais qu'il n'était pas certain que ça se termine bien.
Complètement bien, effectivement. Il y a moyen de la réinventer, cela dit, ça a déjà été fait dans une mise en scène.
Il n'y a pas si longtemps. Une fin heureuse ?
Une fin, alors pas très heureuse, mais disons que ce n'est pas Carmen qui meurt, mais Don José.
Ah, on enlève.
Une alternative.
On enlève le féminicide.
Voilà.
C'est pas inintéressant. Non, mais c'est super. On réinvente les histoires, on les réactualise, donc je trouve ça passionnant. Et il s'avère que pour cette scène-là, parce que je bougeais dans la salle, sur scène, j'étais vraiment à côté des chanteuses. C'était Aude Extremo qui chantait le rôle de Carmen. Pour les deux autres, elles m'excuseront de les oublier, mais elles étaient formidables aussi. Et donc, j'étais très bien mis, très bien placé. C'est du belge, très bien mis. J'étais très bien.
C'est pas grave, j'accepte.
Vous m'aviez compris. J'étais très bien placé et j'aimais beaucoup ce moment parce qu'elles avaient l'air joyeuses et heureuses de chanter ce morceau-là. Et il m'enthousiasmait et je me retrouvais discrètement, parce que j'étais hors lumière pendant qu'elles chantaient, à le fredonner moi-même et à trouver qu'il était gay. Et c'est peut-être le dernier moment un petit peu gay parce qu'après, je ne vous le dis pas, mais il se peut que ça se termine pas super bien.
Voilà, on peut par exemple écouter Carmen qui tire à son tour les cartes après Frasquita et Mercedes. Voici ce qu'elle tire.
L'amour
Il y a un indice. Hein.
Il y a un indice. Je pense que ceux qui ne connaissent pas encore cet opéra qui est,
le plus grand opéra français,
en tout cas le plus célèbre, le plus joué, effectivement, car au pic, ce n'est pas du tout bon signe. Vous allez, Alex, lorsque vous n'êtes pas sur scène, parfois à l'opéra ?
Trop rarement. J'aime bien quand on m'y embarque, c'est-à-dire que si on m'emmène, j'y vais très volontiers. La Monnaie de Bruxelles m'avait demandé d'y aller pour une raison un petit peu pseudo-professionnelle, mais donc j'ai foncé, je suis allé voir un Don Juan là-bas. Mais c'est vrai que c'est pas instinctivement ma culture de départ, et c'est pour ça que je suis ravi que vous fassiez cette émission qui permet aux gens dont c'est pas instinctivement la culture de venir sur France Musique et ne peuvent en sortir que tirer vers le haut. Et donc quand Alexandre Bloch, pour cet exemple de Carmen, m'a demandé, alors évidemment Carmen, j'avais déjà entendu parler quand même, m'a demandé d'en être, je me suis dit, mais aussi je vais baigner pendant 4 soirs, c'était 4 soirs à l'Orchestre National de Lille, dans la musique, dans l'histoire, avec les chanteurs, avec toutes ces choses qui vous sont épidermiques quand vous n'avez pas la culture, parce que je n'ai pas une très grande culture musicale. Mais épidermiquement, elle me parvient. Donc c'était très très joyeux et j'espère que j'aurai d'autres propositions avec les gens du classique.
Mais on l'espère, on vous le souhaite, Alex. Cela dit, la musique classique trouve toute sa place dans vos spectacles, mm-hmm. Alex Vizorek. Votre nouveau one-man show est à découvrir au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au mois de janvier. Et voici ce qu'on peut entendre en ouverture.
Dans une terre grasse et pleine d'escargots,
Je veux creuser moi-même une fosse profonde, où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli, comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô ver, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort, libre et joyeux. Philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Charles Baudelaire.
Merci Alex Vizorek pour cette lecture. On se croirait presque dans une Schubertiade.
Mais oui.
Schubert qui avait énormément de copains qui organisaient des soirées. Lui était au piano, il y avait énormément d'artistes autour de lui. On récitait des vers pendant que lui jouait.
Vous me l'apprenez parce que je cherchais une musique pour soutenir ce texte de Baudelaire que je voulais en ouverture de ce spectacle. Parce que le mort joyeux, bon, la thématique c'est la mort de mon spectacle, mais je voulais évidemment que, en tous les cas, on en rit du début à la fin, et que personne ne projette quoi que ce soit de personnel quelque part, si ce n'est son rapport à la mort. Et Schubert s'est un peu imposé, je ne le dis jamais que c'est la jeune fille et la mort sur scène, mais les gens pertinents et cultivés comme vous me font remarquer à la fin que c'est le petit clin d'œil est bien trouvé.
Il est
et pour les gens qui
bien.
N'ont pas la culture musicale pointue, quand vous quittez la salle, il y a une version de Mourir sur scène de Dalida au piano seul.
Voilà, il y a un petit peu de tout.
Il y a n'importe
c'est
moi.
Ça qui fait la richesse de vos spectacles aussi, Alex. Et je trouve extrêmement choisi ce deuxième mouvement du 14e quatuor de Schubert, ici joué par le quatuor Van Kuyk, La jeune fille et la mort. Il y a ce texte de Baudelaire que vous avez lu, Le mort joyeux, c'est un oxymore. Même oui. Dans la musique de Schubert, il y a à la fois cette part de lumière et d'obscurité.
Oui, enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti et j'ai trouvé que ça s'assortissait très bien au texte de Baudelaire parce qu'on sent que, alors c'est une période à mon avis où, bon certes il a le spleen mais il n'est pas encore malade donc il a cette force vis-à-vis de la mort et il dit je suis prêt, passez-moi à travers, je pense pas qu'il y ait un au-delà, que les vers me mangent, mais il dit ça avec joie et le mot joyeux. À coller à la mort. Certes, c'est un oxymore, mais peut-être qu'il faudrait que ça ne le soit pas.
Finalement, c'est vrai, c'est une bonne piste de réflexion, voilà. Ça, Alex. Et puis, cette petite histoire, Schubert, lui, est à la fin de sa vie quand il compose ce quatuor. Il est mort très, très, très jeune. Il est mort à l'âge de 31 ans de la syphilis. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, Alex, Schubert était très complexé. Il avait un physique, ce qu'on dit, un physique difficile,
oui.
Qui l'empêchait de rencontrer de grand amour. Et puis, il a eu une petite amourette quand même avec une domestique.
Et voilà.
Pas
et
de chance.
C'est le drame.
Et c'est le drame.
France Musique, Saskia Deville.
On écoute votre prochain choix musical, Alex Vizorek. C'est un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns avec eh bien, un nouveau texte.
Allons au fond des bois, nous avons rendez-vous avec un oiseau gris bien éduqué. Coucou ! Il nous salue de son chant ferme et doux qui ressemble à deux notes d'une clarinette. Oui, tu l'as déjà dit, mais tu enfonces le clou. Bonjour donc, cher coucou, dont le nom est... Oui, je viens de le dire, il va me rendre fou. Son nom vient du seul son qu'il peut émettre. Qu'il peut émettre souvent et qui me met à bout, et si tu continues, je t'enferme dans un... Et tu ne sortiras qu'une fois par heure, c'est tout. Voilà comment est né en Suisse le... Oui, le coucou.
Le coucou du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, revisité par Alex Vizorek, notre invité aujourd'hui.
C'est gentil de mettre mon texte, je pensais que vous metteriez la musique.
On a l'occasion quand même de découvrir d'autres choses sur cette chaîne, sur France Musique évidemment. Après le texte de Francis Blanche, le vôtre, Alex Vizorek, vous avez travaillé avec le duo Yatekok et l'Orchestre oui. National de Lille, Lucie Leguet à la direction. Aussi, qu'est-ce qui vous a plu justement dans l'idée de vous réapproprier, de créer votre propre version?
Déjà flatté que j'étais qu'on me le demande, parce que c'était le centenaire de l'année 500, je n'apprends à personne sur France Musique.
Bien entendu.
Le centenaire de 500, pas de l'année, parce que sinon ça fait un 2 centenaire. Donc, et donc on m'a demandé ça, je trouvais ça très flatteur, et je me suis penché sur le côté pédagogique de cette œuvre qui est vraiment, pour quelqu'un qui, comme moi je vous le disais, n'est pas une... Je l'avais... Je crois jamais vu, autant Pierre et Leloup, j'avais un petit peu des, que j'ai pas mal récité, j'avais un début de, d'idée. Autant le carnaval, je ne maîtrisais pas, et puis je me suis replongé dans le texte de Blanche, qui est magnifique, mais qui, je trouve un peu compliqué pour les enfants. Et donc, sur ce coucou, je m'énerve sur la clarinette, et nous l'avons joué avec le National dans l'auditorium de Radio France. Et donc, évidemment, le clarinettiste était allé se cacher, et je passe les 2 minutes du morceau à chercher après, ce qui faisait beaucoup rire. Il y a un côté guignol, mais c'est fou d'avoir ces musiciens si brillants, cet endroit formidable, et des enfants qui se bidonnent parce qu'un débile, c'est-à-dire moi, cherche, moi qui n'ai pas d'oreille, cherche d'où viennent les notes du coucou. Et pour vous dire jusqu'au bout, ça partait du fait qu'en répétition, je ne l'ai pas trouvé et je n'ai pas osé dire aux autres d'où vient ce son, parce que je voyais qu'il n'était plus sur sa chaise, le clarinettiste.
Et mais alors, autres, en quoi, voilà. Justement, Alex, vous qui n'avez pas baigné dans ce genre musical dans votre enfance, en quoi cette transmission de ce répertoire-là est-elle importante à vos yeux?
Alors, la transmission, je ne sais pas si je la fais bien, mais ouvrir la porte, je suis sûr que je le fais un peu. C'est-à-dire que les gens qui m'aiment bien et qui se rendent compte par les émissions de télé où je passe, que je ne suis pas élitiste, c'était dans votre générique, il y a une phrase de je ne sais quel film qui dit « non, il faut quand même une certaine... »
C'est un micro-trottoir à la sortie du Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années.
Eh bien, voilà. Mais donc, c'est exactement tout ce que je déteste dans le rapport à cette musique classique, je vous disais, est épidermique.
Mais qu'est-ce que la musique classique vous a apporté à vous, Alex, depuis que vous l'avez découvert?
Alors, je pense vraiment juste avoir ouvert la porte à nouveau, et moi-même, j'ai mis un pied, mais je ne l'ai pas encore complètement assimilée, elle n'est pas encore en moi. Elle m'apporte, je dirais, à mon avis, certains compositeurs trouveraient ça vexant, une forme d'apaisement. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me poser et d'essayer de comprendre une langue qui n'est pas la mienne. Mais de la même manière, quand je regarde du Bergman, ça fait très prétentieux, j'aime bien, fatalement, je le regarde en langue originale, sous-titrée. Et ce suédois qui m'est très éloigné, pourtant, comme vous, j'ai quelques notions de flamand par notre éducation en Belgique, je ne comprends rien au suédois, mais je sens qu'il y a une espèce de piochage de la langue qui se rapproche comme des langues nordiques. Eh bien, je trouve ça très beau, et par le visage des gens, je comprends donc un peu ce qui se dit. Alors évidemment, je lis les sous-titres parce que sinon je suis perdu, mais eh bien, avec la musique classique, j'ai un peu ça. Pour moi, c'est une langue étrangère, et de devoir décrypter ce carnaval des animaux pour y mettre un texte qui puisse être ce trait d'union, de comprendre ce qu'il a voulu faire comme blague, parce que lui-même admet que c'était pour rire qu'il avait écrit ce carnaval des animaux, et comment il a utilisé les instruments pour donner l'impression que ce soit des animaux, eh bien, ce décryptage, je me suis un peu fait le champollion, l'auto-champollion, pour arriver à, j'espère, un petit peu comprendre ce qui... Et chaque concert... Je découvre encore des trucs où je me dis, mais bien sûr, sans doute il a fait ça parce que c'était très bien que le violon réponde ainsi à tel autre instrument. Et je trouve ça fascinant.
Alex Vizorek, on va écouter votre choix musical très attentivement. Votre prochain choix musical, John Cage, 4 minutes 33. Un extrait de cette œuvre, 4 minutes 33 de John Cage,
je vous cache Alex pas, Vizorek. Une forme de déception. Je ne savais pas que sur France Musique, on coupait comme ça les morceaux d'artistes en plein milieu. J'enverrai une lettre manuscrite.
Je n'en ai laissé que 30 secondes.
Pour me plaindre.
Je comprends. Mais vous savez, il y a ce disque magnifique que John Cage a lui-même enregistré avec son œuvre. On est en 1952 ici. Œuvre qui consiste en 4 minutes 33 de silence qui n'est jamais vraiment du silence.
Bien, je pense que c'est le début de la piste de réflexion qu'il a voulu nous ouvrir.
Mais je vous propose d'ailleurs de l'écouter ici, en 1976, au micro de Claude Samuel. Qu'est-ce que le silence pour John Cage?
Le silence et les sons, eux-mêmes, sans mon intervention. Hmm? Le voilà. La silence s'arrête quand nos émotions commencent.
John Cage ici au micro de Claude Samuel qui raconte sa perception du silence dans une salle. C'est vrai, même si on demande à tous les spectateurs, toutes les spectatrices de se taire,
il n'y a pas de
il reste
vrai
toujours quelque
silence.
Chose. Il n'y a pas de
il
vrai
pas
silence.
De vrai blanc. Je l'ai mis en parallèle avec les tableaux de Malevitch, de Manzoni dans mon premier spectacle, les tableaux tout blancs, parce que le tableau tout blanc raconte quelque chose. Alors évidemment, c'est facile, on peut très vite en rire, et c'est drôle aussi. Hein, je crois que John Cage, comme on vient de l'entendre, est un petit peu.
Oui, il est lui-même amusé
mais
par.
Oui, bien sûr, il le sait.
Par l'effet provoqué par sa musique.
C'est ce qui me fascine, c'est que les gens devant ça, parfois, ont cette réaction de dire c'est de la merde, c'est trop facile, et c'est, à mon avis, une bête réaction. Et l'autre réaction de dire. Comme c'est fascinant, regardez ce tableau blanc, comme c'est réfléchi. Je crois que c'est aussi une mauvaise réaction. Et la bonne, elle est vraiment entre les deux. Mais j'aime bien le côté, il n'y a pas de vrai silence sur les plateaux de cinéma. Le Perchman, très souvent dit, excusez-moi, je vais prendre un silence. Parce que ça se rajoute après. Et un silence de cette pièce-ci n'est pas le silence.
Et on le fait même en radio, effectivement, on enregistre ce qu'on appelle l'ambiance.
Voilà, et quand l'ambiance est un silence, c'est important. Et donc, tout le monde doit se taire sur le plateau, personne ne bouge, mais le silence... Ça fait con, hein, ce qu'on raconte.
Ah non, moi, j'adore.
Le silence d'une pièce de 20 mètres carrés n'est pas celui de la campagne, c'est un autre silence. Et donc, j'aime bien l'idée qu'on s'arrête à réfléchir sur le silence. Parce qu'évidemment, on ne peut pas réfléchir sur la beauté de la note qui sort, mais on peut réfléchir sur la beauté de la note qui ne sort pas. Et en ça, je trouve que c'est intéressant.
Et c'était une belle manière de questionner l'écoute et puis la,
bien sûr,
comme vous le dites, la réception d'une œuvre, sa consommation aussi. Alex, que ce soit finalement la musique classique, l'histoire de l'art, la peinture, l'art contemporain, vous aimez traiter de sujets pointus tout en faisant rire le public. C'est ce qui fait un peu aussi votre marque de fabrique.
J'aime bien que personne ne se sente exclu intellectuellement. Et donc, ce qu'on vient de faire là comme petite philosophie de comptoir sur le silence ou sur le blanc, eh bien, je pense que n'importe qui peut l'écouter et se dire, oh bah oui, je l'avais pas pensé comme ça.
Alex Vizorek, philosophe, humoriste et médiateur à découvrir.
C'est mon côté belge, ça.
Sur scène avec ce formidable spectacle. Vraiment, j'ai adoré Alex. Et j'invite vraiment nos auditrices et nos auditeurs à se rendre au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Vous vous produisez du mercredi au dimanche à 21h jusqu'au mois de janvier avec ce spectacle Ad Vitam à découvrir. Donc on va se quitter avec Dvorak.
Et après je pars en tournée dans toute la France. Je voulais le dire parce que j'aime bien le dire que Paris n'est pas la seule.
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs on va mettre les dates sur la page de l'émission sur le site francemusique.fr. Comme ça vous saurez, peu importe où vous vous situez en France, où aller écoutez ce formidable spectacle. Alex, merci beaucoup d'être venu. Et puis merci à toute l'équipe, Eric Lancien, Pauline Boisaubert et Nicolas Depagraf. Et puis on va se quitter avec l'ouverture Carnaval d'Antonin Dvorak, l'Orchestre Philharmonique de New York, Leonard Bernstein qui ouvrait, ou qui se situait en tout cas dans votre premier spectacle.
Ça ouvre mon premier
spectacle. Exactement. Et pour notre plus grand plaisir. Merci Alex Vizorek et à très bientôt.
Merci France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.